Bienvenue à l'aventure, Robert Blondin ici. Une rencontre aujourd'hui avec Benoît Latulippe, l'aventure de Benoît Latulippe. Il enseigne la cuisine, il a fait de la cuisine, il en fait sûrement encore. Je ne le connais pas, on va le rencontrer ensemble. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous.
Vous en avez fait pas mal de cuisine, pareil?
J'en ai fait encore, c'est-à-dire j'en fais encore et j'aime encore beaucoup ça, faire la cuisine. C'est moi qui cuisine à la maison. J'en fais depuis, je dirais, tout mon jeune âge, là. C'est vraiment ça.
Ça a duré longtemps. Ah oui, depuis si longtemps?
Oui, oui. Mais ma mère était franchement assez bonne cuisinière. Cuisinière qui a eu 5 enfants. Cuisine de maison, là. Cuisine vraiment. Alors, c'était une spécialiste des soupes. Alors, pour vous dire, vraiment, elle aimait beaucoup les soupes. Et chez nous, la fesse de jambon était présente, je dirais, si c'est pas à toutes les semaines, à toutes les deux semaines. Alors, vraiment, un repas très copieux, mais très savoureux, vraiment très bon dans ça. Alors, je l'ai vu cuisiner tout le temps. Les lunchs, c'était pas des lunchs achetés, c'était pas du tout du TV dinner, là, c'était vraiment de la cuisine faite à la maison. Alors, à force de voir ma mère cuisiner, c'est ce qui, j'imagine, m'a donné le goût de la cuisine, le côté artistique aussi, je crois que c'est ce que je trouve intéressant.
On reviendra un peu plus tard sur l'enfance, mais donc, vous êtes devenu un jour professionnel. Hein? Vous avez choisi ce métier-là un jour pour en devenir un professionnel?
J'ai choisi après... Je dirais un parcours un peu ardu suite à... J'aimais plus ou moins les études, pour être franc avec vous. Alors, primaire, secondaire, correct, mais sans plus. J'ai même redoublé ma cinquième année.
Ça, c'est un luxe.
Ah oui, c'est ça, c'est secondaire 5. Alors, après ça, niveau collégial, vraiment, sans savoir trop, j'ai essayé différents trucs. Administration, technique d'assainissement des eaux, pour vous dire. vraiment plusieurs aspects pour finalement aboutir à l'université. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, une image que j'ai, c'est de rentrer à l'Université du Québec, d'ouvrir la porte, de faire deux pas et de me dire « Non, c'est vraiment pas ma place. Je me vois pas là du tout. » Et je suis revenu, je suis parti, je suis même pas allé à mes cours. Alors, pour prendre une année sabbatique et m'inscrire finalement à l'ITHQ. Et quand je me suis inscrit à l'ITHQ, franchement, là, j'ai vraiment découvert, je dirais, mon domaine et c'est vraiment avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt que j'ai fait mon cours. Franchement, je pense que j'étais bon. Je pense que j'étais
démerdé assez bon. Il faut leur rendre hommage. C'est un sacré bon cours à l'ITHQ.
C'était vraiment très bon. Moi, je m'étais inscrit en cuisine et j'ai rencontré le conseiller pédagogique qui m'a, suite à mes cours, j'avais certains cours qui étaient crédités au niveau collégial, m'a fortement suggéré de suivre le cours de technique de gestion des services alimentaires. Alors, c'était le cours de cuisine et... parallèlement à ça, il y avait aussi une technique qui était rajoutée à ça, une technique en administration, alors un cours de 3 ans. Alors, parfait, j'étais entièrement d'accord. Si j'avais le cours de cuisine de base, moi, ça me convenait.
Le reste, ça peut aller,
effectivement.
Et vous avez fait quoi avec ce cours-là, une fois fini?
Une fois fini, je voulais travailler dans un bon resto. Alors, ça me tentait pas là, d'aller niaiser dans un boui-boui quelconque. Alors, je restais à Montréal, j'ai toujours resté à Montréal. Et le meilleur resto que je trouvais, c'était le Mitoyen à Sainte-Dorothée, à Laval. Pas d'auto. rien.
Oui, oui.
Ah, ouais, non, je voulais, vraiment. Alors, finalement, je suis allé travailler au Mitoyen. J'ai travaillé là 2 ans et demi. Au début, je suis arrivé, je me souviens très bien, le 4 juin. Et en autobus, hein, au début, même au tout début, c'était en vélo. J'avais rien. C'est vraiment
c'est
creux.
Un hein. Bon bout en vélo.
Oui, oui, oui. Je voulais travailler. Oui, je vais travailler là. Alors, et j'aimais ça, là. C'était vraiment là, la passion, là, puis le power de la jeunesse, là. C'est vraiment ça. Alors, et la cuisinière qui était là avait une Renault 5, entre autres, je me souviens très bien, une Renault 5 jaune. Alors, finalement, elle me voyageait après un petit bout de temps, là, elle m'a voyagé. Et elle est partie en voyage au début septembre. Elle avait décidé d'aller en France et de faire un voyage en France, de laisser son travail. Alors, quand on commence en cuisine, on commence tout le temps, le premier poste qu'on a, c'est garde-manger. Garde-manger en cuisine, c'est celui ou celle qui fait finalement les salades, les préparations, petits restos comme petite brigade comme au Mitoyen. Alors, même un petit peu de plonge, je faisais les desserts, bref, tout sauf le show. Alors, il y avait un magnifique jardin au Mitoyen. C'était vraiment super intéressant, vraiment, très, très agréable. Alors, finalement, j'ai fait l'été, tout ça. Et Lison, elle s'appelait Lison Bourque, la cuisinière. C'était une fille du Nouveau-Brunswick. Est partie en Europe, en France, entre autres. Et là, le poste était ouvert de chef. Alors, Richard Bastien m'a proposé le poste. Alors, après 2 mois de travail, avoir un poste dans
Ça vient vite, là.
Oh, oui, c'était vraiment... C'était très, très... vraiment une marque de confiance, hein, première des choses. Et très... moi, j'étais très impressionné et c'était très prestigieux pour moi. Alors, écoutez, là, j'ai pris le poste à 200%, là. Vraiment, je me suis consacré à tout égard à ce travail-là, avec tout ce que ça implique, arriver tôt, normalement un horaire de soir comme ça, c'est un resto de soir. Alors, l'horaire de soir, bon, ben c'est 3h à 11h, hein, et payer à la semaine. Et je me souviens très bien, là, c'était le salaire minimum. Hein, chef dans un des meilleurs restos à Montréal, salaire minimum.
Okay. Oui, oui.
Alors, non, mais c'est pas... Non, je m'en sacrais. Moi, je voulais travailler.
Si tôt, tout jeune chef, est-ce que vous avez élaboré le menu au complet?
Non, c'était
non,
Richard...
D'après ce que t'es déjà là?
Non, non, non. Moi, j'exécutais ce que Richard avait mis en place. Je pouvais apporter des idées au début. Je pouvais apporter certaines suggestions. Mais pendant un an, non, non, j'exécutais ce que Richard amenait. Alors, avait amené. Et c'était son resto, là. C'était tout à fait normal, là. Et tout le long de mon séjour, là, ça a été... vraiment le menu de Richard, c'est ça. Mais je vous dirais, un des moments forts, entre autres, dans la restauration, c'est... il y a deux moments très, très forts, la Saint-Valentin et la fête des mères. Alors, je prends mon poste au mois de septembre. Ah, tu vas voir Noël, ça va être rochant. OK, je fais Noël. C'est vrai, il y avait du monde, là. Il y avait des groupes et tout ça. Mais ça se faisait quand même très bien. Et là, avertissement, Saint-Valentin va arriver. Saint-Valentin, ben oui, mais c'est pas grave, Saint-Valentin. Moi, j'avais jamais fait de Saint-Valentin. Alors, Saint-Valentin arrive, on fait la mise en place, on se prépare. Bon, je vois vraiment des quantités assez impressionnantes de nourriture dans ça, mais... pas grave, un peu innocent, hein, un peu nono. Alors, finalement, la Saint-Valentin arrive. Et là, le maître d'hôtel arrive en disant, il y a 2 services, un à 6h, un à 9h. Le resto est plein. OK, bon, je commence à avoir des sueurs froides. Je dis, oh, ouais, ça va être rochant en titi. Mais là, les bons de commande arrivent et la Saint-Valentin, le hic, c'est que c'est des tables de 2. C'est pas des groupes de 10. Hein. Tu fêtes ça à 2, la Saint-Valentin. Alors là, le board, là, le panneau, là, il était plein. 30, 35 bons de commande devant toi, là, c'est extrêmement impressionnant. C'est vraiment, là, wow! Là, tu faut. Et là, gérer, finalement, les commandes. Là, j'étais avec Richard et gérer les cuissons, gérer les sorties. On cumule les tables ensemble. Le timing, hallucinant. vraiment là, une période...
L'amour, finalement, ça, c'est ben ouvrage.
Ah boy, c'était vraiment costaud, très, très costaud. Et en plus de ça, ma conjointe de l'époque était enceinte et risquait d'accoucher cette journée-là.
Ouf, le Saint-Valentin, all the way.
Oui. Vraiment, là, c'est que ça passe les proches. Alors, il y avait un petit peu la pression de la maison de ma conjointe et la pression du travail et tout. Bref, on passe à Saint-Valentin et une semaine après, le 28, ma première fille est née, là, Geneviève. Alors, j'étais vraiment content que ça ne soit pas passé à la Saint-Valentin parce que, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
Est-ce que vous avez fait beaucoup de restaurants avant de devenir traiteur? Vous avez été connu comme un très bon traiteur, là?
Non, c'est le seul que j'ai fait.
Après ça, vous êtes devenu traiteur.
Oui, après, je suis devenu traiteur.
Parle-moi non ça de cette job-là de traiteur. C'est pas comme un restaurateur, ça. C'est différent quand même.
Bien, je suis devenu traiteur parce que, bon, j'ai beaucoup aimé là, ma période au Mitoyen chez Richard. Je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Je dirais, ce qui m'a donné le goût du service traiteur, c'est entre autres mon frère qui a décidé de se marier. Se marier à la campagne.
Qu'est-ce qu'il a pris, lui?
De se marier, ben oui, c'est ça, je sais vraiment pas. Parce que ça a pas duré longtemps en plus. Alors, mais c'est pas grave, ça m'a donné l'occasion, ça a été vraiment merveilleux, ça m'a donné l'occasion de découvrir ce métier-là. Alors, sachant que je travaillais dans un resto, me propose de faire le repas pour son événement. Alors, je vais préparer un menu et tout. Et j'avais dans des conditions vraiment... maintenant, ma PAC là, m'arrêterait. Là, ça a pas d'allure, oui. Là, tu sais, vraiment. Là, l'été, OK? La chaleur, les maillots, pas de frigo. Tu sais, vraiment, pas du tout cocheux, là. Pas en tout. Personne n'a été malade, mais c'était quoi? C'est ça. Alors, bref.
Mais le mariage n'a pas duré longtemps.
Non, c'est ça, c'est vrai. Alors, finalement, fait son événement. C'était quand même, il y avait 70 personnes, je me souviens bien, une centaine, je ne sais pas trop. Mais c'était vraiment très sympathique. J'ai découvert, finalement, le travail du traiteur. Par l'entremise de cet événement-là, la grosse différence, c'est finalement une mise en place avant, on se prépare avant, on n'a pas le stress du service là où les clients sont devant nous puis on doit produire devant nous quand c'est un resto. Quand on est bien organisé, quand on sait planifier nos choses, le service traiteur, c'est le gros avantage que ça l'offre. Et aussi, ben la possibilité de finalement de varier son menu autant qu'il y a de clients qu'on peut avoir.
Mais, traiteur, c'est pas uniquement les canapés. Là.
Non.
Il y a des mets au complet qui sont servis.
Service traiteur, c'est effectivement les bouchées, là, les cocktails, les repas assis, les buffets hein, de toutes sortes, les événements, les mariages et tout ça. Moi, j'avais une très grosse clientèle de clientèle corporative, entre autres les repas du midi, les boîtes à lunch. Beaucoup. J'ai fait beaucoup, beaucoup de boîtes à lunch et de repas le midi. Alors, mon frère m'a donné cette possibilité-là. Et suite à ça, j'avais un oncle qui était médecin aussi.
Ça, c'était pour soigner les gens que vous...
Oui, c'est ça. Les gens qui auraient pu être malades. Alors, mon oncle, étant médecin, était, peut-être que vous vous en souvenez, il y avait l'hôpital Saint-Michel dans ce temps-là, sur la rue, le boulevard Saint-Michel et Métropolitain. Maintenant, c'est devenu une résidence pour personnes âgées. Alors, il travaillait, il était affecté à cet hôpital-là et il était président de l'Ordre des médecins il y a tout le temps dans les hôpitaux un organisme là, de médecins qui parrainent finalement des réunions scientifiques. Alors, qui font venir finalement des conférenciers, des représentants...
Ça, c'est des bonnes occasions pour vous, là.
Et là, mon oncle ayant marié sa femme étant française, il était habitué, avec modestie, à bien manger. OK? Mais les représentants pharmaceutiques, et dans ce genre de réunion-là, bon, ben le représentant pharmaceutique arrivait avec 12, 15 boîtes là, de poulet Saint-Hubert, là, et puis sinon 2-3 pizzas, et puis là, bon, ben c'est le conférencier qui fait la réunion. Mais là, on vous paye le lunch, on vous paye la pointe de pizza avec un coke, tu sais, un médecin, là. T'sais? Fait que là, mon oncle...
Mais c'était quoi votre spécialité? Qu'est-ce que vous aimiez faire qui vous singularisait dans le métier?
Je pense que je fais des mets franchement goûteux, qui sont vraiment goûteux. Je pense que je fais de très belles cuissons aussi, honnêtement. Et je travaille très bien les légumes aussi, vraiment. Alors, aussi bien en salade qu'en légumes d'accompagnement. Je me démerde bien. Les cuissons, que ce soit les cuissons de viande, j'aime particulièrement le poisson. Alors, moi, je suis pêcheur. Alors...
J'aurais un t-shirt, là, qu'on me fiche la pêche, pourquoi, là, oui.
Alors, ce qui fait que les cuissons, c'est assez important pour ça. Les sauces froides aussi, je pense que c'est... Je me démerde bien dans ça. Alors, et mes présentations aussi. Alors, mon oncle m'a proposé de faire... Il donne mon nom à un représentant pharmaceutique en lui disant que je faisais des événements. J'étais traiteur. Ben, j'étais pas traiteur du tout, là. Moi, j'avais rien, là. OK?
C'est comme d'autres choses. On se vante de pouvoir le faire, puis on finit par le faire.
Oui, c'est un... Ben, finalement, on
risque... Il y a pas mal de domaines où on fait ça.
Oui, oui, on risque. Je pense que quand on est jeune ou quand on a... Ça dépend peut-être des mentalités, mais on essaye. Bon, le pire...
As-tu déjà fait ça? Ben oui!
Ben oui, exactement. Ben oui, j'ai dit ben oui, exactement. Et finalement, je vous dirais, à bien des égards, ça m'a été profitable parce que j'ai découvert des situations, j'ai découvert des gens, ça m'a ouvert les horizons d'avoir osé et d'avoir... comme de venir ici, je dirais. Oser venir ici en se disant, bon, ben oui, je vous connais pas ou que j'ai rien de particulier à dire, mais... Le pire qui peut arriver, c'est que finalement...
Comme traiteur, là, y a-tu eu des moments qui étaient particulièrement difficiles ou, tu sais, le genre d'affaires qu'on s'en souvient longtemps, là?
Je dirais, un des pires événements que j'ai eu, je vous dis que de se faire confiance, suite à un événement en particulier où je ne me suis pas fait confiance, je commençais comme traiteur la première année. Un client me demande de faire un événement à saveur russe, entre autres. Alors,
ben oui, pas de problème.
Un menu russe. Non, j'ai hésité. J'ai vraiment hésité. Et vraiment, tout à fait par hasard, j'avais mis une offre d'emploi pour chercher des employés. Un employé se présente et il entend parler de cet événement-là. Il entend parler que je dois faire un événement russe. Et il se vante qu'il a fait des événements russes. Qui connaît ça? Le poulet à la Kiev.
Les blinis. Le caviar,
exactement, ouais, oui, ben oui, le socle en glace, et puis, oh, wow, alors moi, ne connaissant pas, je dis, hey, wow, c'est peut-être l'occasion, bon, ben, je vais l'engager et je vais avoir l'événement. Alors, j'engage le gars, je fais l'événement, catastrophe, c'était immangeable, c'était vraiment pas bon, vraiment, j'ai perdu le client.
Ouais, je comprends.
J'ai perdu le client. OK, j'ai eu de la misère à me faire payer à part ça. Vraiment, ça a été difficile. J'étais obligé de faire un rabais. Alors, à partir de ça, ça a été la dernière fois, là, je me suis dit, non, de la merde. Là, maintenant, là, je me fais confiance. Je prends plus là, un Joe Blow là, qui se vante là, et finalement qui me fait miroiter 56 affaires quand finalement, là, non, c'est je devrais me faire confiance au lieu de faire confiance à Joe Blow qui connaît pas grand-chose.
C'est l'aventure de Benoît Latulippe, chef cuisinier, traiteur, mais maintenant enseignant.
Enseignant, oui, depuis, je dirais, 2002 environ, ça aussi, alors je me suis fait confiance. Moi, je me suis, j'ai voulu être en cuisine parce que j'aime travailler la matière, les aliments, incontestablement. Je pense que j'aime un certain sens artistique, aussi j'aime la présentation, j'aime le feeling de la cuisine, là, vraiment le travail d'équipe, j'aime beaucoup ça. Et j'ai horreur du public. J'avais horreur du public. Alors, j'ai toujours voulu être derrière les fourneaux, être derrière un mur, et j'ai toujours engagé des maîtres d'hôtel, des gens qui étaient en avant, qui vendaient ma salade, et moi, j'étais tout le temps en arrière. C'était ça.
Mais aimiez-vous manger?
Ah oui, j'adore. Puis j'aime. Non, pas jamais. J'aime. Oui, oui, puis j'espère d'aimer ça encore longtemps. J'aime beaucoup manger. Oui, oui, j'adore ça. C'est ça, j'aime bien manger à part ça. Puis j'aime bien manger au bord de la rivière, là, perdu en forêt. Là. Ouais, ouais, mange bien, là. Ouais, ouais, mange pas de la scrap, là. Non, non. Alors, c'est ça. Ce qui fait que, étant extrêmement gêné de parler en public, je suis jamais allé au-devant. J'ai toujours engagé des gens pour aller au-devant. J'ai eu un appel à un moment donné de l'ITHQ, justement, qui me dit « Ah, on fait des conférences pour les étudiants. » Et une des conférencières, Denise Cornelier, une excellente traiteur.
Excellent.
OK, une excellente traiteur, ne peut pas venir. Elle doit faire une conférence. Et est-ce que ça vous tente de la remplacer? Alors vraiment, j'entends ça, puis là, spontanément, « Ben ouais, pas de problème, j'y vais y aller, voyons. » Puis là, je réfléchis pas, puis « Ben ouais, diguidou. » Et là, finalement, là, le téléphone, je ferme le téléphone, je dis « Calvars, qu'est-ce que j'ai fait là, moi, là? » Là, là voyons, là, je vois, ça n'a pas d'allure, là. Alors, finalement, il dit « Bon, ben, j'ai pas le choix, là, je vais être obligé d'y aller. » Alors, je me prépare. Écoutez, là, j'avais là, de la documentation, puis j'étais prête, puis je m'étais préparé, puis tout ça. Alors, je vais à ma conférence devant une salle bondée. Il devait avoir 150 étudiants, full, plein. Écoutez, je rentre là, je commence à dégoûter, là. Hey, là, j'étais en sueur, vraiment, complètement. Une chance, j'avais ma veste de cuisinier. Ça cachait mon T-shirt qui était mouillé. Alors, finalement, donne ma conférence, explique, et puis donne des brochures et tout ça. Il y avait aussi des profs, finalement. Alors, finalement, ça a bien été. Ça a vraiment été très bien. J'étais assez content de moi. Là. J'étais fier, c'est ça. J'avais vaincu une peur, hein, encore une fois.
Encore une fois, il a plongé.
Oui, c'est ça. Et finalement, dans l'assistance, il y avait des profs et de la direction. Et cet événement-là a eu lieu au mois de mars. Je reçois un téléphone un mois après me proposant de donner des cours pour les enfants l'été parce que l'ITHQ commençait à donner des camps de jour pour les enfants. Ah, ben tiens, pas pire ça, je vais essayer ça, un camp de jour. Alors, ben oui, OK.
Ça commence comme ça, puis ça... finalement, ça finit. Parce que là, on va aller un peu plus vite parce que l'émission dure juste une heure.
Alors, finalement, je donne des cours pour les enfants pendant 5 ans. OK? Moi, comme traiteur, je vous disais, j'avais une clientèle corporative qui était très, très forte de septembre jusqu'au mois de juin. L'été, c'était très tranquille. Okay. Alors, l'été, je me suis dit, ah, ben tiens, moi, je vais me retirer de l'entreprise, je vais toujours rester là, mais je vais me retirer et ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre à mon staff de rester là. Je vais garder mon staff et puis moi, je vais m'en aller et je vais aller gagner de l'argent ailleurs. Alors, comme ça, ben tout le monde va être content. Alors, les gens vont...
Mais je veux qu'on arrive à ce que vous faites maintenant, qui est à l'Institut, comment ça s'appelle? L'École d'hôtellerie de Montréal, hein?
Ouais.
À la Calixa-la-Vallée.
Oui.
Bon. Et là, vous êtes professeur avec des élèves qui font un DEP
ouais.
en cuisine.
Oui.
Ça se passe comment? Sont-ils contents de vous?
Faudrait leur demander. Mais je pense que oui. Aujourd'hui, j'ai vu une ancienne étudiante. Je vois souvent d'anciens étudiants qui viennent faire un tour, qui travaillent. En cuisine, l'étudiante en question travaille chez Allumo Coco. Tiens, OK. Ah, ça en prend pour tous les genres, hein?
Absolument.
C'est parfait, ça. C'est correct. Alors, suite à cette expérience-là, quand j'ai décidé de fermer mon traiteur, j'ai été engagé à l'ITHQ, justement, un an, pour donner de la formation aux entreprises. Alors, je me suis promené un petit peu partout, là, au Saguenay, en Abitibi, pour donner de la formation en hygiène et salubrité.
Mais quittez pas la salle de cours si vite que ça, là.
Okay.
Parlez-moi de la relation avec vos étudiants en DEP, en cuisine. C'est quoi le fun d'enseigner à ces jeunes-là en DEP cuisine?
C'est, je dirais, de leur donner le goût et l'intérêt de bien manger, d'aimer la cuisine.
D'abord, de bien manger?
Oui. Parce que si...
Ça, c'est pas évident, là.
Parce que si, finalement, statistiquement, aussi bien à l'ITHQ qu'à Calixa-la-Vallée, qu'à l'école hôtelière des Laurentides ou à Laval, statistiquement, je pense qu'il y a moins de 10 % des élèves qui vont rester en cuisine après 3 ans. C'est pas beaucoup, ça.
Pas
c'est rien,
ça.
Là. C'est rien, là. OK? Ça coûte vraiment de beurrer à la société, là. Mais la majorité des étudiants, là, ils changent de domaine. OK? Ils resteront pas dans ça parce que c'est trop difficile.
Okay, moi, j'ai enseigné en communication. OK? Et j'avais dans mes classes, quand je les faisais à l'UQAM, des gens qui rentraient en communication pour devenir des vedettes. Okay? Mm-hmm. Ça, c'est difficile d'enseigner à du monde qui veut devenir des vedettes. En cuisine, là, je suis certain qu'il y a des jeunes qui y vont parce qu'ils se veulent devenir un Ricardo ou une vedette de télévision, etc. Vous devez avoir affaire à faire face à ça.
Quelques-uns, pas beaucoup. Entre autres, ce vedettariat-là en cuisine vont beaucoup à l'ITHQ. Parce qu'à l'ITHQ, il y a une sélection des élèves. Dans tous les autres centres de formation au Québec, là, partout, là, de la Malbaie à Sherbrooke, à Montréal, n'importe où, tous les centres de formation, ils acceptent les étudiants sans prérequis. Alors, vraiment, des étudiants...
Y a-t-il un snobisme entre les deux, non?
Entre l'ITHQ et les centres de formation, bien, dire qu'il n'y en aurait pas, je mentirais, là. OK, je pense qu'effectivement, il peut y en avoir. Mais ce que je trouve, c'est que je pense sincèrement que les centres de formation sont aussi très bons. Le chef du Toqué, là, à ma connaissance, il n'est pas allé dans l'ITHQ, il est allé dans un centre de formation professionnelle. Plusieurs bons chefs sont allés dans des centres de formation professionnelle et non à l'ITHQ dans ça.
J'aimerais qu'on revienne à votre enfance. Vous avez parlé chez vous, c'est une fratrie nombreuse.
Cinq
enfants. Vous parlez des fesses de jambon, votre mère faisait une cuisine très goûteuse.
Oui.
C'était quoi les habitudes culinaires auxquelles vous avez été habitué enfant à la maison?
Qu'est-ce que je peux vous dire? Je dirais manger une cuisine traditionnelle, là, vraiment, de cette époque-là, dans les années 60-70. Généreuse, bien fait. Peut-être ma mère, entre autres, les légumes, là, archi-cuits. OK, vraiment très, très cuit.
Comme ma ça mère, se faisait ma mère, beaucoup
ben,
au Québec.
Comme ça se faisait à ce moment-là. Non, ouais. Ma mère, elle connaissait deux modes de cuisson. Là. Le poêle, chez nous, là, c'était « off » ou « high ». Il n'y avait pas de milieu, là. C'était « off-white », tu sais. Fait que là, mais le beurre était brûlé. C'était pas du beurre qui était noisette, là. C'est ça. Mais ça fait rien, là. C'était quand même correct. C'était quand même bien fait. Ma mère avait une spécialité, je vous disais.
Les
soupes et l'autre.
Les soupes, ah oui.
Oh, les soupes, oui. Moi, je suis pas amateur de soupe. Je suis plus amateur de soupe parce que j'ai tellement mangé, je suis plus capable. Là. Mais ma mère aimait beaucoup les soupes, beaucoup, je vous disais, le jambon. Elle faisait aussi une tarte au quêteux qui faisait sa renommée. Maintenant, on appelle ça des pâtes de sœur, là. Une tarte avec des pâtes de sœur.
Oui, oui.
Alors, elle faisait ça avec vraiment les restants, là.
On était dans une famille avec le roast beef du dimanche midi, là?
Le soir. Oui, c'est ça. Oui, oui, le dimanche.
C'était tout pareil partout.
Oui, hein. Oui, ouais, patates pilées, carottes bouillies. L'été, c'était le bouilli, hein, avec le lard aussi dans ça. La tarte aux fraises, hein, il fait 100 degrés, là, mais c'est la tarte aux fraises, là, puis le poêle qui chauffe. Là.
Vous avez déjà dit qu'à l'école, vous n'étiez pas le champion?
Non.
OK. Quand tu es arrivé, 13, 14, 15, 16 ans, étiez-vous champion avec les filles un peu?
Non, pas vraiment.
Non plus?
Non, pas du tout. Non, j'ai été très tardif à ce niveau-là aussi. Oui, oui, j'étais vraiment... j'étais gêné. J'étais plus recroquevillé.
Le cuisinier qui ne veut pas voir les clients d'en avant, qui reste près des fourneaux, ah, oui. Il reste assez loin de la madame aussi, peut-être.
Ah, oui, très reculé. Non, j'étais pas du tout aventureux. Non.
Ça a été une période difficile pour vous, l'adolescence?
Première des choses, j'étais un peu gras. Alors, je pense que ça aide pas dans ça. Et ça a été à l'adolescence où j'ai commencé à fondre, là, à allonger, et à devenir un peu plus svelte, entre guillemets. Sportif, plus ou moins, j'en ai fait un petit peu, mais plus ou moins. Chez nous, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, vacances l'été, on avait un chalet. Ma mère avait un chalet à la campagne. Alors, et c'était toutes les oncles et tantes qui avaient un chalet sur la terrasse. Alors, on partageait finalement les vacances d'été.
Vous parlez souvent de votre mère, vous n'avez pas mentionné votre père.
Mon père est décédé, j'avais 12 ans. Alors, je l'ai connu, oui, c'est sûr. Mais à cette période-là, je dirais 11-12 ans, vous parliez d'adolescence, un petit peu en crise avec mon père. Et finalement, ce qui fait que je l'ai connu plus jeune, là, pas de zéro, mais de je sais pas moi, 5-6 ans à une dizaine d'années. Et puis, c'est ça, 12 ans, il est décédé. Alors, ça a été ma mère qui a été beaucoup plus présente. Et mes sœurs aussi, je suis resté avec une de mes sœurs aussi. Alors, ça a été vraiment un côté féminin qui a été.
Mais là, vous avez commencé dans la famille à faire à manger. Vous avez commencé très jeune à cuisiner.
Oui.
Aider. Par goût ou parce qu'on vous obligeait?
Non, par goût. Non. Par goût, pour essayer aussi, et je dirais aussi peut-être pour défier peut-être ma mère, qui parfois était très extravagante dans ses choix culinaires, dans ses mariages culinaires. Alors...
de l'audace.
Oui. Parfois, c'était... Je vous disais, elle cuisinait bien, mais parfois... C'était pas très bon non plus, là. Faut aussi avouer ça, là. Alors, ce qui fait qu'à défaut de manger d'être contraint de manger quelque chose qui n'était pas bon, non, j'aimais mieux le cuisiner, c'est ça.
Je vais poser la question à un cuisinier qui est un cuisinier professionnel, qui connaît sa théorie, sa pratique et tout. Quand personne vous regarde, là, vous voulez vous faire plaisir, qu'est-ce que vous mangez?
J'adore les sandwichs. J'aime beaucoup les sandwichs. Mais pas le petit sandwich, là, vraiment le gros sandwich. Là.
Le sérieux, là.
Ah oui, le costaud.
Le Dagwood.
Ah oui. Moi, j'aime beaucoup le sandwich. Et je vous disais, j'aime beaucoup le poisson. J'aime beaucoup le saumon. Vraiment, au resto, là, pour moi, la fête, là, un saumon, là, wow, bien cuisiné, là, c'est pas mal bon. Là. Ça, j'aime beaucoup ça.
Qu'est-ce que vous aimez pas, pantoute?
Qu'est-ce que j'aime pas du tout? Je vous dirais, là, tiens, je vais vous faire une confidence, j'ai jamais mangé de poutine de ma vie. Et j'ai toujours trouvé ça... Je comprends pas, moi. Je comprends pas le monde qui aime ça, là, qui mange ça avec avidité. Puis manger des frites molles, moi, je comprends pas ça. Manger du sel, là, de même, là, je comprends pas ça. Là. Que tu prennes une tequila avec du sel, OK, doux, mais manger du sel dans une sauce brune, je suis pas capable. Ça me lève le cœur, je suis pas capable. J'ai fait venir, moi, de la nourriture, là, livrée à la maison, là, une fois dans ma vie. Une pizza, j'étais jeune, j'avais 18 ans avec ma sœur, là. Puis j'ai jamais fait venir de... Je suis pas capable, ça m'écœure. J'aime mieux le cuisiner.
Racontez-moi une ou deux de vos déceptions quand vous étiez jeune. Tu sais, le genre de choses dont on se souvient longtemps. Tu dis, la fois que, là, vraiment ça, j'ai pas aimé ça dans ma vie.
Mais je dirais, j'ai arrêté mon service traiteur parce que j'étais saturé de, je dirais, pas la relation, mais le je dirais, de dealer avec des employés, là, ça, j'étais vraiment... J'ai trouvé ça à la fin, j'ai trouvé ça difficile. D'essayer de satisfaire l'un et l'autre et de toujours entendre les récriminations d'une personne, puis de... Ah, j'étais saturé, là, j'étais tanné, là. Ça, j'ai été déçu, là. Et j'étais déçu parce que j'avais l'impression que j'en avais donné et que j'avais consacré beaucoup de temps et que malgré ça, c'était pas encore, ça faisait pas encore l'affaire, puis c'était encore du chiolage, puis j'ai arrêté.
C'est drôle ce que vous dites, parce qu'on a une image des chefs comme des gens presque tyranniques avec la brigade en cuisine. Et ce que vous me dites, c'est que vous n'êtes pas à l'aise du tout avec l'exercice du pouvoir, finalement.
Non. Je pense que un des trucs que j'essaye d'inculquer aux étudiants, entre autres, quand on commence les services, c'est je leur dis tout le temps, bon, ben écoutez, là, on va faire le premier service, là, avec mes étudiants, là, actuellement. Le premier service qu'on a fait, c'est la Saint-Valentin. c'est moi qui mon groupe qui fait la Saint-Valentin à chaque année. Et ils n'ont jamais, là, fait de service de leur vie, là. Jamais. Ils ne savent pas c'est quoi, là. Pas du tout, là. Service de Saint-Valentin, là, on a 120 personnes. Okay, le premier service. Okay, imaginez, là. Okay. Alors, et là, ben moi, il faut que je fasse passer mon message comme quoi, écoutez, là, ça va bien se passer. Il faut que ce soit bien organisé, là. Il ne faut pas, là, que je trébuche, là, en leur disant, il faut que ça vous vienne une belle expérience, que ce soit intéressant, parce que si jamais l'expérience est malheureuse, là, moi, il va falloir que je rattrape ça, là, tout le restant de l'année, là, parce que vous allez avoir cette image-là qu'un service, là, je vous engueule, je vous crie après, il y a de la pression, pardon, les clients attendent, moi, je suis là à vous regarder puis à trépigner. Non, il faut que ça se passe bien dans le calme et qu'à la fin du service, ça vous dit « Wow, j'ai le goût de revenir demain. »
C'est pour ça que je vous ai vu dans une vidéo jouer du tambour avec une casserole pendant que les élèves travaillaient.
Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça.
Avec Benoît Latulippe à l'aventure, donc un professionnel de la cuisine, hein? on en fait, on l'enseigne, etc. J'avais hâte de vous poser cette question-là. Il existe actuellement une mode dans les médias autour des cuisiniers, des chefs, je devrais dire chefs plutôt que cuisiniers, j'imagine, avec ce qu'on voit à la télévision parfois.
Mm-hmm, c'est vrai.
Écoute, il n'y a jamais eu tant d'émissions de cuisine. Les livres de cuisine se vendent beaucoup mieux que n'importe quel roman, le standard, et les essais, on n'en parle même pas. Ça vient d'où? Il paraît qu'on ne mange pas mieux pour autant chez soi, mais on en regarde-tu assez des émissions de télévision de cuisine? Vous en pensez quoi de cette folie-là?
Ben, je vous dirais, moi, j'en écoute pas, première des choses. Vraiment, vraiment pas. Je trouve ça ennuyant et je trouve que c'est... je dirais non. Il y a un genre de déformation dans ça, de voir des gens à la télé. Un des points très importants dans l'enseignement de la cuisine, c'est tout l'aspect hygiène et salubrité, tout l'aspect du MAPAC. Et là, ben, avec le corona...
Ça, des émissions, là, on ne voit pas ça, là.
Ben non, c'est ça, pas du tout. Absolument pas, là. Et normalement, en cuisine, là, il n'y a pas de bijoux, hein? Il n'y a pas de bagues, hein? rien de ça. Un tablier, hein? Une résille ou un chapeau, là, obligatoire, là. Puis aller se laver les mains, hein, minimum, hein? C'est la grosse base, là, OK, dans ça. Non, non, absolument pas, là. Les gens, ils ont rien sur la tête.
Et la moindre petite vedette invitée qui fait un téléroman devient chef pour comment je fais ma sauce.
Ma sauce pagate, là.
Oui, oui.
Voyons, là, tu sais, ta sauce pagate, hey, j'en ai rien à faire, moi, là.
Mais c'est un domaine qui est considérable.
Oui, oui.
Tu sais, je ne veux pas parler contre lui, il est sûrement sympathique. Regarde le domaine financier de Ricardo, par exemple, avec ça, c'est gigantesque.
Oui, oui. Ah, oui. C'est dire que c'est une multinationale, c'est exagéré, mais je dirais que c'est quand même un représentant. C'est un excellent représentant, pour être franc. Très, 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 très honnête. Vous allez googler n'importe quelle recette. La première recette qui sort, c'est Ricardo.
Tout le temps.
Tout le temps, tout le temps. Alors, il y a un sens du marketing merveilleux. Super. Et ce que je dois lui donner aussi, comparativement à plusieurs autres, puis pour ne pas dire à tous, c'est que Ricardo, ses recettes, ils sont testées. Alors, quand un élève m'arrive et « Ah, j'ai trouvé une recette de muffin et, ou quelque chose pour faire et je vois sa recette et je vois Ricardo, ça me donne confiance. S'il m'arrive avec une recette une feuille de chou quelconque, là, non, non, je crois pas à ça, là. »
Donc, vous, c'était pas votre destin de faire ça parce que vous êtes plutôt timide en cuisine que vous étiez. Et ces chefs-là sont des vedettes, des rockstars, là.
Oui.
C'est absolument incroyable.
Oui.
Moi, je connais des gens, là, pour aller prendre un café chez Ricardo le dimanche matin, ils sont prêts à faire la queue pendant une heure et demie au cas où ils pourraient le voir à l'intérieur.
Ben oui.
C'est incroyable. Là.
Ben oui, ben c'est... Oui. Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas quoi vous dire. Là.
Mais ça ne change pas les habitudes alimentaires des gens chez eux pour autant. Ils regardent les recettes, mais ils ne font pas tant que
non.
ça.
Écoutez, je vais vous dire, présentement, je suis en service avec mes étudiants. L'espèce de repas simple qu'on appelle, c'est le midi. Alors que l'espèce de cafétéria, une belle cafétéria, là, c'est pas quétaine, là. C'est vraiment une belle cafétéria. Alors, pour les profs, les enseignants, et moi, même le public du quartier peut venir. Alors, la semaine dernière, j'ai fait une journée poké. OK? Alors, oui, on fait une journée poké, croyant que mes étudiants allaient, waouh, tout le monde allait sauter dans les airs, puis poké. Alors, vous connaissez qu'est-ce que c'est le poké, hein? J'ai 21 étudiants, il y en a 5 qui m'ont dit, oui, on sait qu'est-ce que c'est. Les autres, ils savaient pas qu'est-ce que c'était. OK? C'est anecdote, OK? Mais c'est pour vous dire.
Ah okay? Oui, absolument.
Alors, puis poké, là, tu le vois, ces autobus, là. Tu le vois partout, là. T'sais? Alors, les gens, oui, vont s'informer, c'est-à-dire, vont être curieux. Oui et non. Tu sais, dans ça, quand je vous disais, si suite au cours, les étudiants mangent mieux, ou en tout cas, la personne mange mieux qui a suivi son cours, peut-être qu'elle ne travaillera pas en cuisine. Elle va travailler un an, puis après ça, elle va changer de domaine. Mais peut-être qu'elle va avoir pris des habitudes alimentaires, manger plus de légumes, parce que les gens ne mangent pas de légumes, avoir des meilleures cuissons, manger plus de poissons, plus cuisiner, un petit peu plus cuisiner. Que ce soit des nouilles, mange des nouilles, mais achète-moi
pas. Mais fais-les comme il faut.
Mais oui, fais-les comme il faut. OK, doux. Et si tu manges mieux, tu vas passer un petit peu plus de temps à table, mais je pense que c'est mieux qu'une pilule, puis c'est mieux que 56
affaires. Moi, je partage cette opinion-là avec vous complètement, mais je vois, et vous le voyez au moins aussi bien que moi, il y a un snobisme en cuisine. Je ne sais pas si c'est en cuisine, sûrement en cuisine, mais moi, qui est du côté des clients à table, il y a un snobisme des clients, pour le peu qu'on ait un petit peu de moyens, qui est d'un ridicule total.
C'est exagéré. C'est très, très vrai. Et les restos à la mode, c'est ce qui marche fort. Je suis allé chez tel resto, hein, fond sonore, exécrable, hein, tu t'entends pas parler. Nourriture, ordinaire. C'est très, très, très souvent mal apprêté.
Dans certains restaurants avec 82 000 calories par repas, non?
Ben oui, ben oui. Ben oui
avec bien du foie gras dedans.
Oui, oui, mais aussi des portions gigantesques. Hein? Okay. Ouais. C'est pas du tout le guide alimentaire canadien, ça, là. C'est pas du tout... on s'en va pas vers ça, là, des portions gigantesques. C'est
mais
pas ça,
je
là.
Vous parlais de snobisme parce que je parlais de vocabulaire aussi. T'as des clients qui sortent, ils ont vraiment appris tous les mots-clés de la cuisine et qui sortent depuis... T'sais, ils peuvent citer Escoffier, là. Ils n'ont pas de problème avec ça. Moi, j'ai vu ça, je vais vous conter juste une petite anecdote. J'ai souffert ça avec beaucoup de gens, des Français en particulier, qui me serinaient avec, ouais. Bon, snob comme ça, je ne pouvais pas. Un jour, j'ai reçu un couple français qui m'avait vraiment snobé en France avec ça, et j'ai dit à ma compagne de l'époque, regarde, ils veulent jouer le jeu, on va le jouer à deux. J'ai acheté un poulet barbecue de chez Saint-Hubert, j'ai acheté de la sauce barbecue que j'ai mélangée avec une crème de champignons, tu sais, Campbell. J'ai mélangé tout ça, sauf que je leur ai fait un discours tellement snob qu'ils ont trouvé ça extraordinaire.
Je vous crois. Ah oui, 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 oui.
Tu sais, it's all in the head, là. Je vous dis, ça se peut pas, là.
Oui, 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 je le crois. Et je vous disais que moi, là, j'ai jamais mangé de poutine. Le foie gras, là, je cuisine ça là, très mal, là. Je suis vraiment pas bon, là. J'aime pas ça, moi, là. Mais manger du beurre, là, de même, là, je crois pas à ça, là. C'est pas ma tasse de... Et c'est pas dans l'air du temps. Je crois pas à ça. Dans ça. Ah oui, il y a beaucoup de snobisme et il y a beaucoup de « m'as-tu vu? » Les gens vont beaucoup au resto, hein? C'est étonnant, là. C'est vraiment surprenant, là. Ils ont des livres de cuisine, ils regardent des émissions de cuisine. Je regarde ma fille, là, bon, ben l'émission des chefs. Puis c'est très bien, là, c'est très correct. Elle le regarde assidûment, là. Bon, ben peut-être qu'elle va téléphoner pour faire venir une pizza pour écouter l'émission des chefs, là. elle cuisinera pas de la nouille, là. Elle va caler la pizza.
Ah oui.
C'est aussi nounou que ça, là. Alors, c'est un petit peu ça, là. Bon, ben, et quand elle me dit, bon, ben, j'ai cuisiné, puis elle cuisine, là, quand même, là, franchement, elle cuisine pas mal. Elle me dit, bon, ben, pour m'aider, j'ai acheté des barquettes au supermarché, des légumes déjà taillés. OK? On voit ça, là, dans ça. Ah, bon, OK. Bon, moi, je fais pas ça, mais en tout cas, correct. Au moins, tu cuisines. Okay. Au moins, tu cuisines et que tu aies acheté ça, que tu aies acheté, je sais pas moi, un autre aspect qui va t'aider dans ton plat, ben, tu as passé du temps à cuisiner, à humer, à tâter, à te concentrer à ce que tu fais. Bon, ben écoute, c'est un moment d'évasion, c'est un moment de création, c'est un moment avec ton chum, un moment pour prendre un verre de vin, un moment de bonheur. La cuisine, c'est le bonheur.
Sauf que les gens font pas de la cuisine, ils font ça pour se nourrir, c'est pas pour avoir du plaisir, malheureusement, très
non,
souvent.
Non, hein? C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Y a-tu un fast-food qui trouve...
Non.
Je le savais, mais...
Non, le meilleur fast-food, c'est chez moi. Le vendredi soir. Okay. Oui, c'est ça.
Parce que ça aussi, c'est extrêmement répandu. Tu sais, les émissions de cuisine ou les gens qui sont snob au restaurant... Ça, je posais la question plus tôt dans l'émission. Qu'est-ce que vous faites quand on ne vous regarde pas? Il y a un paquet de ces gens-là qui sont dans les fast-food, là.
Ouais, ben, je vous dirais le fast-food, là. Je vous disais, je suis pêcheur. Je vais au Saguenay à tous les mois de septembre, là, aller pêcher la truite de mer à la rivière Sainte-Marguerite, là. Et en haut de la côte, à Tadoussac, là, il y a une roulotte à patates, le connaisseur. Et le connaisseur, bon, ben, je vais vous dire, pas à tous les ans, là, loin de là, mais à tous les 3-4 ans, là, bon, ben, on arrête et on va s'acheter une patate au connaisseur.
Une bonne frite bien faite, c'est bon, maudit.
Excellent. Super. Vraiment, là, très belle, de la bonne huile, première des choses, pas de la vieille huile. La patate est longue, la patate elle a été blanchie, puis après ça elle a été frite, elle est croustillante, chaude, wow, super. En regardant le fjord, là. Wow.
Sans aller jusqu'à la frite belge avec les trois graisses, la graisse de cheval, la graisse de panne, puis tout ça, là, c'est pas nécessaire.
Non. Et puis là tu finalement, tu regardes le fjord, t'entends les vannes qui montent la côte de Tadoussac, puis tu manges ta frite, puis wow, c'est le bonheur, c'est ça.
OK. Là, je vais vous poser la question. Moi, je suis à la table ici. On mange tous les deux. Disons, t'es avec votre compagne ou je sais pas qui. Bon, moi aussi. Et là, vous voulez nous faire plaisir. Quelle sorte de repas vous allez nous faire, là, pour que ça soit pas snob, mais mauditement bon?
Quelle sorte de plat que je vais vous faire? Je vais peut-être vous faire en fin de semaine, j'ai fait un petit effiloché de porc, parmentier d'effiloché de porc. Alors, c'était épaule de porc. Et je vais vous faire une petite confidence. Je finis ma semaine le vendredi et moi, pour me détendre, là, avant de m'en aller à la maison, là, je m'en vais au supermarché, puis là, je m'en vais passer une heure et demie tout seul à me promener dans le supermarché.
Une heure et demie dans le supermarché?
Oui. Puis là, je flâne.
Ils n'ont pas appelé la police? Ou...
Non. Mais là, puis là je regarde, puis je flâne, puis là, j'imagine qu'est-ce que je vais faire. Puis là, c'est le début du week-end. C'est
je comprends-tu que vous élaborez vos recettes au supermarché en vous promenant, en regardant les choses, plutôt que d'arriver avec une liste d'ingrédients?
Non, moi, je regarde les spéciaux. C'est les spéciaux.
Ah!
Oui.
Les spéciaux?
Ah oui, tout le temps. Oui, j'achète le spécial, moi. C'est tout le temps ça, oui. Ce qui est en spécial, c'est ce que j'achète. Puis là, ah oui, c'est vrai, avec ça, je préfère ça. Je retourne acheter le légume qui va... Le spécial? Le légume en spécial. Oui, je suis cheap. et là, bon, ben je trouve que là, ça commence le week-end. Et le samedi matin, je me lève, je sais pas, 6h30. De 6h30 à midi, là, je cuisine, moi, tous les samedis.
Ça, c'est le temps congé, là.
Oui, tout le temps. Oui. C'est... Et je passe ce moment-là parce que ma conjointe dort en haut où elle sait que... Non, c'est là, j'écoute le bigot, puis là, je flâne, puis là, je rigole, puis je suis tout seul, c'est le Capharnaüm, puis ça, c'est le bonheur.
Les alcools, le vin, la bière?
J'aime beaucoup la bière. J'aime beaucoup le vin aussi. On a découvert un petit vin blanc, là, un petit vin italien blanc qui était vraiment très, très intéressant. Là, j'essaye d'en boire moins. Je fais attention pour pas abuser dans ça. Mais le week-end, oui, le vin, oui.
Les bières artisanales?
Oui, mais je suis pas un hyper amateur de bière, pour être franc. Oui, mais sans plus, là, vraiment. Je préfère le vin.
Et vos desserts préférés, c'est quoi? Je sais que pas de soupe au début, ça, je crois. Mais le dessert.
Le dessert préféré, le chocolat.
Quelque chose au chocolat.
Oui, mais même chocolat.
Tout court.
Oui. Oui, un bon chocolat. Oui, ça, j'aime beaucoup. Oui, ça, je trouve que ça finit bien. Effectivement, un dessert au chocolat. Mais le chocolat, j'aime beaucoup ça. À l'école, il y a l'équipe de pâtisserie qui va faire des stages à la Grenade. À la Grenade, c'est un petit producteur de chocolat. Et ils ont fait une certaine spécialité où ils rapportent les fèves de cacao, ils torrifient les fèves de cacao et ils font des chocolats. Alors, ils font du chocolat de la Grenade. Ils sont allés en Chine. Ils ont rapporté des fèves de Chine pour faire du chocolat de Chine. Et finalement, de différentes régions. Ils font des stages avec les étudiants. Et franchement, ils sont assez bons. Ils sont pas mal bons.
Alors, moi, je veux avoir votre opinion sur une couple d'affaires, dont la mode du vegan.
Ah oui.
À vous la parole.
La mode du vegan, c'est drôle que vous dites ça. Avant-hier, la semaine dernière, j'ai fait un repas poké. Avant-hier, j'ai fait un repas végétarien. C'était ma journée végétarienne. Ça fait 3 ans que je fais ça. C'est probablement les 3 journées où j'ai le moins de clients. Je continue à le faire. Évelyne, ma conjointe, quand je suis arrivé hier, il dit, j'ai pas eu beaucoup de clients, là, 25 personnes. J'ai vraiment pas beaucoup, là, vraiment pas beaucoup.
Mais vous parlez d'un resto, 25 personnes?
25, la cafétéria, le midi.
Ah, la
là,
cafétéria
à l'école.
À l'école, OK, ouais, d'accord.
Ah, généralement, je peux avoir, je sais pas, moi, 70 personnes, là. Oui, là, 20-22, je pense. Là. Rien, là, c'est vraiment rien. Et là, elle me dit, bon, c'est pas grave. Là. Bon, j'étais un peu déçu. Je pensais que là, j'aurais eu un petit peu plus de monde. Je l'avais annoncé et tout ça. Et finalement, elle me dit, finalement, tu sais, tu l'as fait et ça montre aux étudiants qu'il y a autre chose, qu'on peut faire un repas aussi équilibré, sans viande. C'est un peu dans l'air du temps aussi. Écoute, c'est pas perdu, là. Tu sais,
c'est pas perdu, mais ils vont pas.
Non, c'est ça, exactement. Oui, c'est exactement ça.
Le bio?
Qu'on mange moins, juste pour finir dans je dirais qu'on mange moins de viande, je crois à ça, là, c'est vraiment, là, je pense qu'on en mange trop dans ça. Qu'on mange plus de poissons, je suis entièrement d'accord, et qu'on mange plus de sources de protéines autres que des sources animales, excellent, parfait.
Bon, c'est le régime méditerranéen.
Hein. Oui, c'est exactement ça. J'avais du tofu, j'avais du fromage, j'avais des noix dans mon menu, des grains entiers aussi, des lentilles, tout ça. Alors vraiment, je pense que c'était bien équilibré pour un repas végétarien. Le bio, oui, je trouve ça intéressant. Malheureusement, je trouve que je trouve ça un peu cher. Okay. C'est un petit peu ça que je trouve. Et le bio source québécoise, j'y crois. D'ailleurs, là, source mexicaine ou source, je ne sais pas trop, disons que je suis un peu plus méfiant. C'est ça. Déjà, je suis méfiant avec les produits mexicains ou les produits qui viennent de régions, des fois, asiatiques. Alors, non, le bio québécois, j'y crois. Mais ailleurs, disons que je suis sceptique.
Benoît Latulippe, moi, j'oserais pas inviter à ma table des chefs vedettes. Mais des chefs comme vous, je ne serais pas gêné de vous inviter à ma table, puis je serais bien heureux d'aller dans la vôtre aussi.
Ah, bien, avec grand plaisir. Oui.
Merci beaucoup.
Ah, ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup.
À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Bonne semaine.